la définition de ce qu'est être français se fait toujours dans notre pays à partir de quelque chose qui dépasse les individus. Chez nous, l'État s'étant fait avant la nation historiquement, les individus et ce qu'est sans doute notre nation, c'est un mixte, une dialectique entre la communion et j'allais dire la dispute sociale, voire des fois dans son histoire la lutte des classes. Mais être français, c'est finalement se disputer toujours au travers d'un même objet. J'étais tombé sur un interview de William Boyd il y a un an et demi dans le Nouvel Observateur où il disait qu'il avait été frappé de ce que les Français avaient toujours le goût de discuter, de polémiquer de tout. Il fallait toujours qu'ils aient une opinion sur quelque chose. Alors, il disait la globalisation, les scandales, l'amour, bon. Et il disait peu importe que les Français aient raison ou tort, ce que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est ce besoin de toujours discuter entre eux, polémiquer, bon. Et ça me faisait penser à une lettre de Marx à Feuerbach quand Marx passe à Paris, où il parle des réunions des ouvriers parisiens et où il indique que finalement, à bien observer les ouvriers qui se réunissent en général dans les cafés comme ici. D'ailleurs, c'était pas très loin, c'était rue de l'Arbre Sec, là où avaient lieu en général des réunions des ouvriers d'International communiste. Et il disait finalement, quand j'observe bien ces ouvriers parisiens qui se retrouvent à la fin d'une journée de labeur, je comprends que la raison réel du fait qu'ils soient entre eux, ce n'est pas tant l'objet de la réunion, en général syndicale ou politique, mais c'est le besoin qu'ils ont de se retrouver et de discuter ensemble, de faire société ensemble. Bon. Et donc c'est ça le statut de la politique dans notre pays, c'est définir... je résumerai ça, définir l'objet autour duquel il faut se disputer. Or, justement, tous ces objets qui faisaient l'identité du pays sont tous tombés en panne au même moment. C'est-à-dire que ce qui faisait l'identité, qui dépassait les individus, sont tous rentrés en crise. À gauche, l'idée de progrès est rentrée dans une contradiction entre un progrès technologique et économique qu'on souhaite s'approprier et l'idée qu'en se l'appropriant, on entretient ce que serait une régression sociale portée par la globalisation. À droite, la droite est passée en quelques décennies d'une vision holiste de la politique liée au catholicisme à une vision providentielle des marchés, vraiment à la française, pas à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire dans le rapport entre l'intérêt individuel et le rapport au collectif et le fait de pouvoir se projeter. Or, dans nos études, depuis une décennie, même à droite, l'idée que les marchés fonctionneraient de façon providentielle n'existe plus, ce qui fait d'ailleurs que l'électorat de droite est plus conservateur que libéral au plan économique et qui souhaite majoritairement le retour de l'État en matière économique, pas seulement en matière sociale, mais en matière économique. Et, alors ça c'était l'objet de votre précédente invitation, ce qui faisait l'identité politique, le troisième pilote automatique, et là à la fois pour la droite et la gauche, les gouvernants et les gouvernés, c'était l'Europe comme prolongement de ce qu'est la France. L'Europe comme la France en grand, la phrase de Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Or, évidemment, la victoire du non signe le deuil que momentanément l'Europe à 25 n'est pas... la France en grand. Et donc, c'est le fait que ces trois pilotes automatiques soient en panne qui fait que doit se redéfinir ailleurs, à l'Élysée, la renationalisation du souhaitable. C'était l'objet de notre précédente discussion à partir de mon papier dans le débat qui s'appelait « La renationalisation de la question européenne ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qui porte l'identité qui dépasse les individus, les groupes sociaux ou politiques qu'était soit le progrès, soit le marché, soit l'Europe comme la France en grand ne fonctionne plus, alors il y a une nécessité de renationaliser la question du souhaitable. C'est pour ça que ma thèse, c'est pas une thèse qui sort de mes lubies, mais des études, c'est que la présidentielle a commencé réellement lors du référendum européen, non pas dans le vote du 29, qui était un vote purement social, mais par le débat même qui portait sur la question du souhaitable, puisque le pays a détourné un texte qui était le meilleur compromis possible venant de l'extérieur en constituante nationale et européenne. Et donc, quand on passe d'une discussion sur les moyens à une discussion sur les finalités, on fait de la politique. Ce qui fait que finalement la campagne présidentielle a été une campagne assez longue, et ce qui fait que pour la première fois les jeunes parlaient plus de politique que les plus âgés, c'est que le pays a fait de la politique, c'est-à-dire qu'il s'est réapproprié la question des finalités. Et il a rencontré durant cette campagne des personnalités tout à fait étonnantes. Tout seigneur, tout honneur, évidemment, Nicolas Sarkozy, dont la plupart du temps, on n'a pas repéré quelle était la spécificité de Nicolas Sarkozy. Sa spécificité, c'était justement que Nicolas Sarkozy, quand il se met en mouvement, il se met en mouvement nonobstant la question des finalités, c'est-à-dire que là où d'autres se réfugient parce que ce sont des énarques qui sont passés sans s'en rendre compte du service de finalité à des moyens comme étant leur propre finalité. Donc, comme avocat, pour lui, l'objet de la politique, c'est le mouvement lui-même qui dégage sa propre finalité. C'est ce qui a fait son succès. En un mot, quand il nous disait que quand il se rasait, il pensait à la présidentielle, ça voulait dire essentiellement qu'il voulait du pouvoir, et donc s'il en voulait, c'est qu'il avait quelque chose à en faire. Là où les autres auront été plutôt avant même de s'adresser aux Français, dans l'intériorisation de contradictions qui fait que les Français repèrent ceux qui veulent vraiment du pouvoir ou ceux qui n'en veulent pas. Bon. Mais Sarkozy, étant donné que ça fait bien longtemps qu'il travaille idéologiquement le pays, il était déjà dans le paysage. Il était dans le paysage sans que les observateurs soient suffisamment attentifs à ce qui faisait distinction. Alors, évidemment, comme toujours, ce qui permet de bien comprendre ce qui se noue dans le pays, c'est l'émergence de Ségolène Royal. Elle est sur le même registre. C'est-à-dire que Ségolène Royal émerge dans l'électorat de gauche parce que sa façon d'être semble être la preuve que, à la fois, elle restitue le pouvoir aux citoyens et qu'elle veut du pouvoir pour en faire quelque chose. C'est-à-dire que le Parti socialiste, à partir du moment où le nom l'emporte, ne peut pas noyer sa contradiction habituelle entre conquête du pouvoir et exercice du pouvoir dans les brumes européennes. Évidemment, c'est chez les socialistes que la contradiction est la plus forte, car la demande des citoyens en termes de droits économiques, sociaux, de droits de créance est une demande exponentielle, c'est la demande de la nation, alors même que le cours du capitalisme fait que l'État se retire de la nation quant à ses outils d'intervention économique. Or, finalement, il y a trois façons de répondre à cette contradiction entre la conquête du pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait. Il y a la réponse traditionnelle de la première gauche, portée par Laurent Fabius, à gauche toute et on verra après. Il y a la réponse de Dominique Strauss-Kahn, il ne faut pas laisser planer d'illusions, il faut être sérieux, on ne peut pas promettre plus qu'on ne peut faire, donc étalons les choses, au risque d'apparaître comme gestionnaire des choses. Et puis il y a la réponse de la gauche, c'est avant même que la gauche accède au pouvoir, on vous prévient, de toute façon, ils vont trahir. Et donc, on n'a pas repéré que Ségolène Royal, elle avait une quatrième réponse. On ne l'a pas repéré parce qu'elle ne l'a pas théorisée doctrinalement, parce que son rapport, justement, à la gauche n'est pas un rapport doctrinal, mais culturel. C'est que la démocratie participative, sa façon de concevoir la démocratie comme une famille, qu'est-ce que sinon que demander à chaque individu de créer du consensus par la dynamique des choses et donc d'intérioriser la contradiction entre le souhaitable et le possible. Ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle elle n'a pas peur du pouvoir, elle n'avait pas peur du pouvoir en y allant, elle semblait si sûre d'elle et qu'elle l'a emporté comme elle l'a emporté d'abord dans l'opinion de gauche et ensuite au sein du Parti socialiste, c'est que justement sa façon d'être apparaissait tout à fait intrépide. Elle semblait dire « mais je vous restitue le pouvoir, on va y aller ». Elle utilisait des formules bibliques en disant « sac à dos et ensuite on gravit la montagne ». Et donc, du coup, cette campagne, contrairement aux campagnes antérieures, ne s'est pas faite sur des dossiers. N'est-ce pas 80 déjà la question du chômage, 88 la modernité, 95 la fracture sociale, la délinquance en 2002. Cette campagne ne s'est pas cristallisée sur des dossiers. Le pays a consommé des dossiers, mais comme révélateur finalement des candidats. La question gauche-droite, qui est celle du contenu des politiques, a été superposée par une dimension verticale qui est la question de la cohérence entre la personne, le projet et les valeurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique également l'émergence de François Bayrou. C'est-à-dire que, en un mot, selon moi, Ségolène Royal ne l'a pas emporté sur ses rivaux socialistes parce qu'elle était à gauche ou à droite, mais elle l'a emporté par le bas. De la même façon que François Bayrou n'a pas émergé pendant la campagne au travers des sondages parce qu'il était centre-droit, centre-gauche ou centre, mais parce que chez lui, il y avait une plus grande cohérence pour beaucoup de désenchantés à l'égard de la campagne de Royal ou de Sarkozy, il y avait une plus grande cohérence entre sa personne, son projet, ses valeurs. Demeurait une question, c'était celle de ses moyens politico-institutionnels pour qu'advienne son propos. Il n'aura pas donné une réponse à ça. C'est pour ça que quand le pays, au travers des sondages, le met au niveau de Royal et de Sarkozy, ensuite il va décliner parce qu'il ne va pas changer de... Il ne va pas changer de registre. Alors, ça, ce sont les éléments structurels du pays, ce qu'attend le pays. Et le pays, finalement, met en avant trois personnes qui ont comme point en commun le fait que vous ne les avez jamais entendues dire que les contraintes extérieures justifiaient de leur part renoncement. Ils ont pu aller sur des objets apparemment moins politique, entre guillemets, par rapport à ceux qui ont une vision de la politique comme étant le gouvernement des choses. Mais en fait, il répondait gouvernement des hommes, il répondait identité, il répondait articulation entre qu'est-ce qu'être français et le contenu des valeurs, le contenu du propos. Et d'ailleurs, ces trois personnalités ont toutes eu des problèmes avec le rapport au père, parce qu'ils se sont construits psychologiquement et politiquement dans la nécessité de ne pas s'abriter derrière des tutelles paternelles, mais devant se construire par eux-mêmes, n'est-ce pas? Et donc, du coup, il y a un lien intime, ayant travaillé pour les trois, il y a un lien intime entre ce qu'ils sont comme personnes, leur rapport, leur vision de la société, et même les outils leur permettant de comprendre et de repérer la société. L'émergence de Ségolène Royal est l'expression du fait que les socialistes n'ont pas travaillé pendant 5 ans. Mon première interview après 2002, dans un journal, ils avaient titré quelque chose que je disais, c'est-à-dire la thèse de l'accident empêche la gauche d'avancer. Si on pense que quand on a un échec, c'est la faute des autres, on est dans ce que condamne à juste titre Orwell, c'est-à-dire on est dans le moralisme. Il y a d'un côté les gens bien, de l'autre les salauds. On ne se remet jamais en cause. On a toujours la morale pour soi, n'est-ce pas? Et donc, l'émergence même de Ségolène Royal a été, pour l'électorat de gauche, une façon de contourner tout ce que sentait intuitivement l'électorat de gauche, ou plutôt ce qu'il ne sentait pas, parce que l'émergence de Ségolène Royal provient essentiellement du fait qu'il n'y a plus de correspondance entre ce qu'est l'électorat de gauche et ce qu'est la géographie de la gauche. Je l'écrivais il y a un an dans le débat. Ceux qui votent à gauche de la gauche, contrairement à ce que disent les leaders de gauche et les journalistes, ne votent pas à gauche de la gauche parce que ce sont des radicaux politiques, mais au contraire parce que ce sont des conservateurs sociaux. Ceux qui ont voté non, CSA avait été le premier institut à avoir le nom devant, tout de suite j'avais alerté, j'avais dit le nom de gauche, ça n'existe pas. Il y a un nom à gauche. Ceux qui ont voté non n'ont pas voté non parce qu'ils essayaient de construire une alternative au capitalisme. Ils n'étaient pas du tout anticapitalistes, ils étaient antilibéraux. Ça n'a rien à voir. Sinon, on ne comprend pas que depuis une décennie, le pays soit idéologiquement antilibéral et qu'il n'y ait pas de construction d'un anticapitalisme politique, n'est-ce pas ? Non de gauche, non à gauche. Si on se trompe, on se trompe surtout. C'est-à-dire que c'était un vote purement social, ce n'était pas un vote d'alternative. Donc ceux qui votent à gauche de la gauche votent là parce qu'ils disent à la gauche « Vous ne nous protégez pas, vous ne réformez pas au sens où nous, on entend ce que devrait être la réforme, c'est-à-dire quand même un minimum de préservation du compromis capital-travail au sein de la nation. » Et donc, puisqu'il n'y a aucun rapport entre ce qu'est la géographie politique de la gauche du point de vue de l'offre avec les raisons pour lesquelles l'électorat vote, notamment à gauche de la gauche, Ségolène Royal semblait, elle, contourner les problèmes, n'est-ce pas ? Contourner les problèmes. Et dans son rapport à la gauche, c'est bien parce qu'elle a un rapport culturel à la gauche et non pas doctrinal qu'elle a rencontré à ce moment-là l'électorat de gauche, mais sans avoir derrière les outils, ni elle, ni son entourage, ni au Parti socialiste, pour articuler les raisons de son succès et la question, et derrière la question du projet, la question des finalités. C'est-à-dire qu'elle portait bien l'intuition du fait que le malaise dans la société ne provenait pas des Français, mais des élites, donc elle a trouvé des façons de dire ça et d'avoir l'oreille des Français, mais sans qu'à aucun moment on passe de ce constat générique à la question du « so what ?» comment on fait pour sortir de la contradiction. L'électorat de Sarko, c'est la France des entrepreneurs, la France ouvrière du privé. En début de campagne, Sarkozy n'attaque pas le salariat. En fin de campagne, il est dans le salariat, majoritaire dans le salariat du privé, majoritaire chez les ouvriers du secondaire. C'est-à-dire, les catégories populaires ont été séduites par son néo-bonapartisme, qui est la question de la volonté politique. Quand trois fois pendant un débat, il dit « Ah oui, Madame Royal, quand quelque chose ne va pas, vous nommez une commission, on discute et tout », là, il marque dans les catégories populaires un point tout à fait décisif, parce que la démocratie participative, c'est pour les classes moyennes, la petite bourgeoisie intellectuelle, ceux qui ont les moyens rhétoriques de défendre leur beefsteak. Mais ceux qui sont dans les catégories populaires et qui n'ont pas les moyens, eux, de participer à des réunions où ça blablate comme je le fais, eux, ils sont plutôt sur le registre néo-bonapartiste, c'est-à-dire on veut un chef qui s'engage et ensuite, s'il n'est pas à la hauteur, on le remerciera. Bon. Donc là, c'est là où la question sociale rejoint derrière la question culturelle, la question des capacités des catégories à défendre leur bout de gras et par quels moyens. Donc la France de Sarkozy, c'est une France à la fois des entrepreneurs jusqu'à la France ouvrière qui est dans le cocon de l'usine qui, si elle ferme, les gens sont morts. Là où la France de Royal, c'est la France précarisée. C'est la France des jeunes qui ont un haut niveau de diplôme et qui ne trouvent pas qualification, d'un côté, et de l'autre, la France de la fonction publique. Bon. Donc il y a un rapport qui est un rapport où il y a une articulation entre la question sociale, la question culturelle, la question politique. Bon. Bayrou, c'est compliqué parce que Alors contrairement à ce qu'il dit, je ne suis pas du tout d'accord avec la thèse selon laquelle, parce que ce n'est pas ce que j'ai dans mes études, ce serait un électorat protestataire. D'ailleurs, je suis très content façon générale qu'il se soit passé ce qui se passe, parce que moi, notamment par rapport aux politologues de Sciences Po qui analysaient le nom et tout, moi ça fait des années que j'ai écrit que le pays n'est pas protestataire, que le pays ne veut pas renverser la table. Donc il est allé voter, il avait moins raison de voter aux marges du système. Et là aussi, c'est une question décisive. Si on pense que le pays est protestataire, alors effectivement, il saisit tout pour... Bon, c'est pas ce que je vois dans mes études. Alors la difficulté de Bayrou, c'est qu'il a obtenu ce beau score à une présidentielle, mais que les logiques institutionnelles, les modes de scrutin ne vont pas l'aider à pouvoir conserver tout ce capital présidentiel dans les élections intermédiaires, peut-être un peu aux municipales, aux régionales, aux européennes, mais c'est là où il y a quand même des logiques institutionnelles, hein, et notamment la question de la bipolarisation, où quand même ça peut contraindre des propos.